Bonjour Fabrice, et aujourd'hui nous allons parler d'un étrange, d'un singulier personnage, Antonin Artaud. Si on a fait de moi un bûcher, c'est pour me guérir d'être au monde. Antonin Artaud. Ans d'histoire. Le 13 janvier 1947, dans la salle archicomble du théâtre du Vieux Colombier, tout ce que Paris comptait d'écrivains était venu voir Antonin Artaud. Après 9 ans passés dans l'enfer des hôpitaux psychiatriques, il était devenu méconnaissable. À 50 ans, il en paraissait 20 de plus. Je garde de ce jour un souvenir ineffaçable, a écrit André Gide, atroce, douloureux, presque sublime par instant et quasi intolérable. Artaud commence à lire quelques poèmes, puis ne trouvant plus ses mots, improvise quelques imprécations contre la médecine, la religion, et puis devient très vite inaudible. On avait du mal à comprendre l'écrivain, l'acteur, le metteur en scène, qui avait marqué la littérature, le cinéma et le théâtre d'avant-guerre, quand Artaud était déjà atteint par la folie, qui allait inspirer une des œuvres les plus singulières du XXe siècle.
J'ai été malade toute ma vie, et je ne demande qu'à continuer, car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de... La bonne santé suffit, car la cocaïne est un or, l'héroïne un surhomme en or.
Florence de Merdieu, bonjour.
Bonjour.
C'est une voix qui fait frémir, que vous connaissez sûrement, c'est celle de Antonin Artaud, auquel vous avez consacré plusieurs livres, dont une biographie chez Fayard. Est-ce qu'il parlait couramment comme ça? À quoi correspondaient ces cris?
Alors là, c'est un enregistrement tout à fait de la fin de la vie, mais il est certain que dès le début de son intérêt pour le théâtre, Antonin Artaud a toujours pratiqué un mode de voix en quelque sorte tout à fait exacerbé, qui lui venait pour une part d'ailleurs de l'expressionnisme allemand, qui l'a beaucoup influencé sur ce point. Et vers la fin de la vie, de surcroît, c'était encore plus outré, une voix presque d'un chaman venu d'un autre monde.
Alors venu d'un autre monde, un homme qui triche sur son identité, qui a toujours brouillé les pistes, et c'est la raison pour laquelle votre livre, qui est un livre important de 1000 pages, qui est passionnant, Florence de Merdieu, vous dites que ce n'est pas une biographie, parce que justement, c'est un homme un peu insaisissable, en fait.
Alors, c'est une biographie qui, d'une certaine manière, veut régler ses comptes avec la question de la biographie. Puisqu'Antonin Artaud, bon, je le montre véritablement dans son histoire, tous les faits sont très précis, mais en même temps, je montre comment il a toujours voulu se situer au-delà des faits et faire éclater les limites de la biographie.
Et puis, c'est un livre sur sa vie, justement, celle aussi de son siècle, et d'une jeunesse qui est quand même intéressante, hein. Ses parents, il est né à Marseille, il faut le rappeler, en 1896, hein, le 4 septembre, d'un père qui était capitaine au long cours et armateur, d'une mère à laquelle il fera souvent référence, qui était une grande famille de Smyrne à l'époque, quand à l'époque elle était encore dans l'Empire ottoman, et puis une mère surtout qui le couvre, car très jeune, et au fond il le disait d'une certaine manière à l'instant, Artaud, très jeune, il a été atteint par une maladie nerveuse. La folie s'est déclarée très vite, Florence de Merdieu.
Oui, vers l'âge de 5 ans, il a eu les prodromes d'une méningite, sans qu'on sache si véritablement il s'était agi d'une méningite réelle. Donc il a été excessivement couvé par sa mère, de surcroît parce qu'il y avait aussi beaucoup d'enfants mort-nés, hein, d'une famille nombreuse, mais avec beaucoup d'enfants mort-nés. Et l'attachement d'Artaud à sa mère est important et certainement trop fort. Hein. Il y a presque ce qu'on peut appeler d'une manière psychanalytique un Édipe très fort qui va le conduire progressivement à vouloir aussi se débarrasser de la cellule familiale, mais en fin de compte, il n'y réussira jamais vraiment.
Enfin, d'une certaine manière, oui, puisqu'il sera interné très jeune, enfin dès l'âge à peu près de 20 ans, et envoyé notamment à l'hôpital Villejuif, près de Paris, donc où il va découvrir ce qu'il aime, au fond, ce par quoi il veut s'exprimer, la poésie. D'abord, il écrit tout de suite des poèmes quand il est à Paris, des poèmes qu'il cherche à publier, mais il y a une chose de ça assez cocasse, c'est que le patron de la NRF, auquel il envoie ses poèmes, refuse, mais en revanche, hein, Jacques Rivière, ce patron, va publier sa correspondance avec Artaud.
Alors Artaud écrit des poèmes depuis l'adolescence. Il a toujours cherché à les faire publier. Quand il monte à Paris, bien sûr, il s'adresse à la NRF et à son directeur qui à l'époque est Jacques Rivière. Alors Jacques Rivière, effectivement, n'aime pas les poèmes d'Artaud qui sont, il faut bien le dire, assez empoulés, symbolistes, mais finalement assez surfaits. Par contre, il est tout à fait enthousiasmé par la correspondance qui met le doigt déjà sur la maladie d'Artaud et sur son rapport à lui-même et à cette espèce d'impossibilité de penser, de s'exprimer.
Et alors en même temps qu'il écrit des poèmes, qu'il correspond avec Jacques Rivière, eh bien Artaud découvre le théâtre dans la compagnie de Charles Dullin qui en 1946 rappelait sa première rencontre avec Antonin Artaud.
Antonin Artaud se présentait à moi, 7 rue Honoré Chevalier, où j'avais installé l'école et la première troupe de l'atelier. Il avait un physique charmant, qui théâtralement correspondait à un excellent physique de jeune premier. On l'aurait volontiers fait jouer à ce moment certains dandys romantiques. À ce moment, pour assurer notre indépendance absolue, nous faisions tout par nous-mêmes, maquettes, décors, costumes, et Antonin Artaud mettait la même passion à l'arrangement d'un costume qu'à un exercice d'école. Comme il était doué pour tout, il devint vite un compagnon précieux dans le travail. Il était un peu fantaisiste dans cette vie en commun, mais il avait une délicatesse d'âme et un charme dans les rapports qui le rendait toujours attachant.
Donne-nous des crânes de braise, des crânes brûlés aux foudres du ciel, des crânes lucides, des crânes réels, et traversés de ta présence. Fais-nous naître aux cieux du dedans, criblés de gouffres en averse. Qu'un vertige nous traverse avec un ongle incandescent. Rassasie-nous, nous avons faim de commotions intersidérales. Averse-nous des laves astrales à la place de notre sang. Tâche-nous, divise-nous avec tes mains de braise coupante. Ouvre-nous ces routes brûlantes où l'on meurt plus loin que la mort.
Vous entendez Prière, un poème d'Antonin Artaud chanté par Jean Vasca, donc belle poésie quand
très
même. Hein. Et alors, un homme aussi qui, au début des années 20, lui qui est tellement indépendant, qui refuse les écoles, qui refuse toutes sortes de disciplines, il entre, il va y rester peu de temps, chez les surréalistes, Florence de Merdieu.
Tout à fait. Alors c'est André Breton finalement qui d'une certaine manière cherche à attirer dans son sein, au sein du groupe Antonin Artaud. Et Antonin Artaud va y participer de manière excessivement active, en promulguant en particulier des lettres tout à fait incendiaires contre le pape, contre le père, contre les écoles, etc. Et André Breton sera très content et très satisfait d'Artaud jusqu'au moment où il va s'inquiéter de son mysticisme et de sa pensée paroxystique. Donc finalement, il va évacuer Antonin
Artaud. De ses excès,
Artaud.
Pourtant, il ne les avait pas peur, les surréalistes. Est-ce que c'est pas
ça
plutôt,
lesquels.
Est-ce que c'est pas les engagements aussi des surréalistes auprès du Parti communiste, par
également.
Exemple? Parce que lui, Artaud n'aimait pas ça.
Non, il ne voulait pas effectivement faire, comme il disait, la révolution avec un petit R, mais la révolution avec un grand R. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il va se séparer des surréalistes.
Alors, poète, comédien de théâtre avec Dulin, mais aussi, il va être comédien au cinéma où il va jouer 20 films entre 1924 et 1935, date de ce film d'Abel Gance, Lucrèce Borgia, dans lequel Artaud joue le rôle du célèbre moine de Florence, Savonarole, révolté contre les mauvais prêtres et même le pape.
Je vous le dis, habitants de Florence, jamais dans les états de l'Église, les attentats ne furent plus fréquents. Le meurtre, le rap sont devenus choses si courantes que nul voyageur n'est assuré de parvenir en bon port. D'où vient cela? De ce qu'on cherche en vain, l'autorité du vicaire de Jésus. Notre bon prince. Ah, et dis à celui qui est assis sur le trône de Saint-Pierre ce que j'ai mission de lui faire dire. Iniquité, désordre, oubli de sa sainte mission.
Faut-il vous le répéter? Iniquité, désordre, oubli de votre sainte mission. Savonarole, t'as signe au tribunal de Dieu, toi et ton collège de mauvais prêtres.
Et c'était un des derniers rôles d'Artaud au cinéma, puisqu'il avait joué 20 films depuis 1924, les premiers étant muets, on n'a pas pu entendre des extraits bien sûr, et le cinéma le fascinait.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a réalisé aussi des scénarios de cinéma. Il a participé au scénario de La coquille Clergyman qui a été réalisé par Dulac. Alors, il s'est ensuite un petit peu fâché avec Germaine Dulac, mais le film de Germaine Dulac, La coquille Clergyman, reste un très beau film. Et puis surtout, Artaud aura réussi à avoir quelques magnifiques rôles au cinéma. Il y a le rôle du frère Massieu dans La Jeanne d'Arc de Dreyer, où il est absolument sublime, et également le rôle où il a un jeu excessivement outré et expressionniste dans le Napoléon d'Abel Gance, où il joue le rôle de Marat.
Très très beau, hein, les très photos beau. De cette époque, c'est un homme magnifique, c'est le contraste qu'il y a entre les photos des dernières années d'Artaud et celles des années 20 ou 30, où il est vraiment magnifique, c'est ce que disait d'ailleurs Dulin. Alors justement, revenons au théâtre, il était à l'atelier avec Dulin, et puis il va s'en séparer pour d'autres groupes, et surtout fonder le sien, ça c'est peut-être le moment le plus important de la vie de créateur d'Artaud, au théâtre Alfred Jarry qu'il crée. Alors là, il y vient avec des idées qui sont révolutionnaires. Lesquelles, Florence de Merdieu?
Alors, il veut en particulier abandonner le théâtre de mots pour accentuer le rôle de la scène sur le plan plastique. Ce qui l'intéresse, ce sont les musiques, les gestes, les couleurs, les sons, tout un ensemble plastique, et il veut en quelque sorte liquider ce qu'il appelle le théâtre dans un fauteuil. Il s'inspire pour cela d'ailleurs des théâtres orientaux, le théâtre balinais, mais également les théâtres chinois et japonais, le théâtre japonais qu'il avait découvert chez Charles Dulin. Donc il y a une volonté de se mettre à l'écoute davantage de l'Orient et d'abandonner l'héritage européen.
Alors il a pour ça toutes des tas de théories qu'il va publier. Il appelle ça le théâtre de la cruauté aussi. Ça veut dire quoi?
Le théâtre de la cruauté, ça signifie que le théâtre n'est pas un art d'agrément. Le théâtre doit servir, et il doit servir de manière cruelle, c'est-à-dire modifier l'homme. Pour Artaud, l'homme a été raté par Dieu. Il faut donc le remettre sur la table d'opération, et c'est la scène théâtrale, et lui refaire une anatomie. Et le but d'Artaud, c'est véritablement de refaire l'anatomie des spectateurs qui viennent assister à son spectacle.
Alors, cruel dans les textes, cruel dans le choix des textes, mais aussi cruel pour les comédiens, ce théâtre de la cruauté, c'est le titre d'un des manifestes qui ont tous été rassemblés dans un recueil publié en 1935, Le théâtre et son double, dont on entend Louis Jouvet lire un extrait en 1946.
Il faut admettre pour l'acteur une sorte de musculature affective qui correspond à des localisations physiques des sentiments. L'acteur est un athlète du cœur, et la sphère affective lui appartient en propre, elle lui appartient organiquement. Voilà un aspect du théâtre auquel notre théâtre psychologique moderne n'a certes pas songé depuis longtemps.
Il était un roi de Tulé.
Il était un roi de Tulé.
Il était un roi de Tulé. À qui son amant tu fidèle? Les gars comme sur une éodèle.
Rondelle, d'elle.
Les gars comme sur une éodèle.
D'elle.
Les gars comme sur une éodèle.
Faites trisser le son. Il faut faire vivre le son jusqu'à ce que la fibre de vie grince.
Les gars
fidèle.
À qui son amant tu fidèle?
Il s'agit d'ouvrir la bouche de telle sorte que le son qui se trouvait sous le coccyx sache gagner les étages supérieurs de la Lueck Colette.
Vous savez, Colette, que vous devez continuer de travailler avec moi.
Oui, Anton Arthaud.
Et c'était Samy Frey dans le rôle d'Antonin Artaud, extrait d'un film de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur en compagnie d'Antonin Artaud. Le théâtre cruel, Florence de Merdieu, il était aussi pour les acteurs, si l'on en croit cet extrait de film.
Oui, surtout à la fin de la vie. Mais déjà, on peut dire, par exemple, à l'époque de Shenshi, il cherchait en quelque sorte à mettre les spectateurs et les acteurs, ou tout d'abord, dans un état où ils soient hors d'eux-mêmes.
Shenshi, c'était une pièce qui n'a eu aucun succès. C'était en 1935, oui. Une pièce d'Artaud qui n'a eu aucun succès.
C'est compliqué parce que la presse était bonne.
Oui.
La presse était bonne,
mais le public n'était pas là.
Oui. Donc, il cherchait à mettre en quelque sorte en danger, si vous voulez, les acteurs, pour qu'ils puissent véritablement aller au bout d'eux-mêmes. Et donc, il y avait une certaine forme de violence, les pousser à bout, et surtout leur faire abandonner les trucs de comédien.
Alors, les Shenshi, ou les Shenshi, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, c'est une pièce donc qui n'a pas, en tout cas, assez de succès. Je crois qu'elle a été interrompue assez vite. Et là, Artaud fiche le camp. Nous sommes en 35-36, il s'en va, il part au Mexique, où il va rester 6 mois auprès des Indiens Tarahumara. Alors, qu'est-ce qu'il est allé chercher au Mexique, Florence de Merdieu? Est-ce qu'il en avait marre de l'Europe, de l'Occident? Il va voir des Indiens, il va pas voir des Européens.
Tout à fait. Alors, tout d'abord, il fuit l'Europe, il fuit une vie de théâtre qui ne lui plaît plus, une vie mondaine qui ne lui plaît plus, et il va rechercher en quelque sorte la civilisation archaïque, première, primitive, et il va aller chez les Indiens Tarahumara, où il va subir une initiation dont il dira qu'elle a été ratée, mais en fin de compte, on peut se demander si toute initiation n'est pas ratée, et il reviendra du Mexique profondément chamboulé, parce qu'il y restera, il faut bien. Vient le dire pendant 10 mois, et à la suite de cela, il va revenir complètement, je dirais, décalé et déboussolé.
Oui, alors, une initiation, il faut bien être précis, notamment avec une plante hallucinogène qui s'appelle le peyote. Hein. C'est un homme, on l'a peut-être pas dit au début, mais dès sa jeunesse, à cause des souffrances qu'il avait, qui était sous traitement, notamment au laudanum, qui est un dérivé de l'opium, et qui était toxicomane depuis sa 20e année, à peu près, en tout cas depuis ses premiers internements dans les hôpitaux psychiatriques. Et là, il va effectivement se faire initier à cette plante hallucinogène. Il va partir ensuite en Irlande. Alors là, c'est un peu le délire. Hein. Il prétend y aller avec la canne de Saint-Patrick.
Il part avec la canne de Saint-Patrick. Il se prend d'ailleurs pour Saint-Patrick. Et il va accomplir un deuxième voyage initiatique, en particulier dans les îles d'Aran, qui sont un des lieux les plus sauvages de l'Irlande, un haut lieu de la culture celtique. Et là-bas, il va complètement basculer et il commence justement à avoir des troubles d'identité très sérieux. Il est indigent, il n'a plus d'argent, et c'est ce qui va amener les autorités irlandaises à le rapatrier en France.
Il se prend pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour un empereur romain sur lequel il a écrit un livre qui était sans doute le plus fou des empereurs romains, Héliogabale. C'est vraiment un homme qui n'est plus très très sain d'esprit, effectivement, quand il est chassé d'Irlande par les Irlandais, et il se retrouve pour la première année, la première des 9 années, dans un hôpital psychiatrique. Il va en faire 4 en 9 ans, où viennent le voir ses amis, Arthur Adamoff, Marthe Robert, Roger Blin, et puis la première passion amoureuse d'Antonin Artaud, 20 ans plus tôt, Jenica Athanasio.
C'est terrible. Il avait un croteau de pain sous son bras avec une veste bleue au milieu de cette salle. Et il avait beaucoup de mal à ramasser ses idées. Et j'avais au fond de moi-même un certain chagrin de ne pouvoir rien faire.
Oh, j'ai trouvé un homme.
Arthur Adamov.
Un homme dans un état assez terrible, un homme terrifié, un homme qui vivait dans la peur constante des électrochocs. Nous avons trouvé, Marthe Robert et moi, quelqu'un qui nous a réellement serré le cœur.
Qui a passé par l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres.
Alors le traitement de Antonin Artaud dans ces hôpitaux psychiatriques, il y en a eu plusieurs, Florence de Merdieu, il a changé selon les hôpitaux et selon les époques aussi, mais ça a duré 9 ans.
Au départ, le grand traitement, c'est l'insuline. Alors là, on ne sait pas si Artaud en a eu, mais à partir de Rodez, il va subir les électrochocs. Mmh. Alors les électrochocs qui sont nouveaux à Rodez, puisque quand Artaud y arrive, il n'y a pas encore d'électrochoc, et il va subir. Alors il faut savoir que l'électrochoc est une thérapie qui consiste à provoquer une crise d'épilepsie artificielle. Donc il y a un coma artificiel, bon, qui est bref, et ensuite, bon, bien évidemment, le patient revient à lui, mais ça provoque tout un ébranlement complet, à la fois du psychisme et de l'ensemble du corps.
Il faut rappeler qu'il a passé toute la guerre ainsi dans les hôpitaux psychiatriques et que par exemple quand il est venu à Rodez c'est parce que dans le nord occupé par les Allemands, ce sera le cas aussi du sud d'ailleurs, mais enfin on ne nourrissait quasiment plus les malades, hein. Il y avait une malade célèbre aussi dans les hôpitaux pendant la guerre, c'était Camille Claudel, hein, une malade mentale célèbre. Mais alors il arrive à Rodez et il y a ses traitements, ses électrochocs, il y en a eu 58 je crois au total, mais le docteur Ferdière, qui dirigeait cet hôpital, n'était pas un monstre, contrairement à ce qu'on peut croire.
L'électrochoc était une méthode ordinaire à l'époque. Ça a été une méthode répandue de manière absolument internationale. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas Ferdière, le problème est la psychiatrie. Ferdière, en fin de compte, a été accusé, il a servi de bouc émissaire. Mais ce qui serait à mettre en cause et en question, c'est la psychiatrie. Il faudrait au moins examiner la question de manière, je dirais, claire.
De quoi souffrait exactement Artaud ? On dit toujours maladie nerveuse, etc. C'était quoi, en fait? Comment on l'appelle?
Il avait en tout cas, ça c'est certain, d'un délire d'interprétation, un délire paranoïaque. Il avait des soucis de persécution très forts, probablement des hallucinations. Maintenant, on lui a attribué beaucoup d'étiquettes, mais je crois qu'il souffrait surtout d'un mal-être tout à fait fondamental. Et à un certain moment, effectivement, il a été la proie de troubles d'identité très profonds.
Et visité par ses amis, par Blin, hein, qui a joué dans les Saint-Chi, et puis qui beaucoup de d'auteurs aussi qui gardent de l'amitié pour lui. Il y a Desnos, par exemple, qui a fait en sorte qu'il soit envoyé à Rodez. Desnos, qui lui va mourir en camp de concentration. Et ce sont ses amis qui vont le sortir de là. Alors, vous attachez beaucoup d'importance à cette expérience, Florence de Merdieu, parce que des écrivains ou des sculpteurs ou des peintres internés à la fin de leur vie, on l'a vu. On n'a jamais vu quelqu'un revenir de l'asile comme c'était le cas d'Antonin Artaud, ramené par ses amis.
Revenir et créer. Parce qu'en fin de compte, ce qui est étonnant, c'est que à partir de son retour à Paris, il a énormément créé.
En 46,
il va y avoir le fameux Van Gogh, ou le suicider de la société, pour en finir avec le jugement de Dieu, il y a des textes absolument flamboyants. Et c'est cela qui est étonnant, parce qu'il sort de la folie, on peut dire qu'il y est encore, et en même temps, il va parler de cette folie. Donc on a un témoignage qui est absolument inappréciable sur le monde de la folie.
Et parlons de Van Gogh, on sent bien qu'il pense un peu à lui-même. Un aliéné, disait-il dans ce texte sur Van Gogh, c'est un homme que la société n'a pas voulu entendre et qu'elle a empêché d'émettre d'insupportables vérités. Alors ces vérités, il va les sortir. D'abord, il y a cette réunion que j'évoquais au tout début de l'émission, lorsque il est au théâtre du Vieux Colombier. Là, on lui demande de lire des textes. Là, c'était devenu parfaitement inaudible, on n'arrivait plus à le comprendre. Et puis alors, il y a surtout cette pièce radiophonique qu'on lui commande en 1947, pour une émission de radio, donc, et dans laquelle il allait dire quelques-uns de ses textes pour en finir avec le jugement de Dieu.
Et savez-vous avec quoi les Américains et les Russes pour leurs atomes? Ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. On a trouvé
un nouveau moyen de faire ressortir Dieu et de le prendre sur le fait de sa nocivité microbienne. Riez tant que vous voudrez, mais ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu.
Arthur, 1947, c'est encore la voix d'un fou quand même, Florence de Mérieux.
Tout à fait, mais en même temps, il en est conscient, il en joue. Hein, il joue au jeu de la folie, il dit bien, vous êtes fou, monsieur Arthur. Et d'une certaine manière, il l'écrira à Claudel, oui, oui, il est un aliéné authentique. Mais en même temps, bon, l'aliéné authentique, c'est celui qui parle et qui dit vrai, exactement comme le fou du roi.
Alors, cette émission, d'abord, elle a quand même surpris, elle a choqué même, en tout cas, le patron de la radio de l'époque, hein, c'est pas comme aujourd'hui, puisqu'on vient de l'entendre, parce qu'elle a été interdite pendant 25 ans.
Tout à fait, et à l'époque, donc, elle avait été commandée à Artaud, et ensuite, le directeur de la radio s'est offusqué. Il a réuni un aéropage qui, en fin de compte, a décidé que, bon, on aurait pu la présenter, cette émission, mais en fin de compte, ces gens eux-mêmes étaient choqués. Ils l'ont dit après coup. Donc, c'était impensable par rapport aux mœurs de l'époque.
Puis on a expurgé quelques passages extrêmement, presque scatologiques. Hein,
tout à fait. Il y a des passages scatologiques. Il y a des attaques contre la religion qui sont très, très, très virulentes.
Là, on vient de les entendre.
C'est toujours un langage très cru. C'est le langage d'ailleurs qui vient, enfin moi je pense que c'est un retour de l'inconscient lié justement aux électrochocs. Donc c'est un langage cru.
C'est la dernière fois qu'on l'entendait puisqu'il est mort 3 mois après. Alors là on le retrouve un matin, c'était en mars 1948, on le retrouve comme ça avec un flacon de laudanum entièrement vidé. Est-ce que c'est un suicide ?
Certes, je ne pense pas, et on n'a jamais d'ailleurs évoqué l'hypothèse d'un suicide. Il s'agit probablement d'une overdose de laudanum.
Parce que c'est assez pathétique, cette fin, dans cette maison d'Ivry. Même l'enterrement, enfin je dis, il a été enterré même presque clandestinement. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'Artaud ? Est-ce que c'est un auteur ? Parce qu'il y a énormément de manifestations en ce moment, à l'occasion de l'anniversaire, du centième anniversaire, de 110e anniversaire même de sa naissance. Qu'est-ce qui reste d'Artaud ? En quoi est-ce qu'il a marqué son temps et sa littérature ?
Eh bien, il est pluriel. D'abord, il est pluriel, c'est-à-dire qu'il a travaillé dans beaucoup de domaines, à la fois la poésie, le cinéma, même on pourrait dire la philosophie et la pensée, le théâtre.
Le dessin aussi.
Le dessin,
hein,
très important.
Parce qu'il y a beaucoup de dessins en ce moment exposés, effectivement.
Donc, c'est un homme orchestre, et comme écrivain, c'est, je pense qu'il restera le plus, et c'est un écrivain hors pair.
Le théâtre dont il rêvait, est-ce que c'est celui qu'on peut voir aujourd'hui dans les salles ? Pas tellement, finalement.
Le théâtre qu'il rêvait a été en fin de compte incarné par le nouveau théâtre américain des années 70. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Mais ça se retrouve peut-être dans d'autres formes d'expression.
Merci Florence de Mérieux. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre. C'était Antonin Artaud, publié aux éditions Fayard. Vous êtes aussi l'auteur de La Chine, le Japon d'Antonin Artaud, aux éditions Blusson. À lire également dans Le Monde 2, qui sort aujourd'hui, le dossier Archives du Monde consacré à Artaud, et notamment l'excellent article de Bertrand Poirot-Delpech du 9 mars 1998. Antonin Artaud aussi à lire, Un insurgé du corps d'Evelyne Grossman aux éditions Gallimard dans les collections Découvertes. Et enfin à voir l'exposition que la Bibliothèque Nationale de France consacre à Antonin Artaud jusqu'au 4 février 2007 au site François Mitterrand à Paris dans le 13e arrondissement. Vous avez pu entendre des extraits des films Lucrèce Borgia d'Abel Gance aux éditions Studio Canal en compagnie d'Antonin Artaud, de Gérard Mordilla et Jérôme Prieur avec Samy Fray, publié par la 7 édition. Et puis alors deux extraits du texte d'Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu, enregistré avec sa voix, on l'a entendu, en 1947 par l'atelier de création radiophonique de René Farabet pour le RTF, est disponible dans un coffret de 4 disques compacts, une coédition INA et André Dimanche. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa, Ludovic Asselot, documentation et archivina, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac.